Et Laura a 12 ans, bientôt 13, et elle ne ressemble à aucune autre. Elle est la fille étincelle, l'enfant feu. Elle regarde le monde sans ciller, ne pleure pas, n'a peur de rien. Elle bouscule, tempête, chamboule, terrasse. Elle est révolte, subversion et bourrasque. Mais un incendie. Ses rires inondent les pièces où elle entre et chassent les ombres tapies sous les meubles. Elle désespère sa mère, qui apprécierait plus d'aide à la ferme, mais ne peut retenir un sourire devant l'audace de sa fille. Et Laura est tout ce qu'elle n'est pas. Elle refuse de porter des robes pour courir à sa guise, son esprit aussi véloce que ses jambes ravit y lire. Il nourrit pour sa fille des rêves de grandeur impossible, des rêves d'homme. Chaque soir, il lui enseigne le français et l'histoire. La vraie, celle qu'il a apprise dans les livres interdits par la dictature. Chaque matin, à l'aube, elle court rejoindre Agon avant que celui-ci ne soit monopolisé par les travaux à la bergerie de son père, Tahir. Agon, son cher Agon, agile, connaissant la montagne comme pas deux, la tête et le cœur remplis d'étoiles. Depuis l'enfance, ils sont les meilleurs amis du monde. Et Laura et lui partagent la même passion pour les moutons, les randonnées sauvages et les sommets. Le garçon ne se déplace jamais sans Baba Tomor, le corbeau apprivoisé qu'il a découvert un matin de printemps, 3 ans plus tôt, gisant devant l'entrée de la grange. Il a soigné l'oisillon tombé du nid, l'a nourri avec une bouillie de lait de brebis et baptisé du nom de l'ancien dieu protecteur de la nature. À chaque printemps, les deux amis accompagnent le père d'Agon et les autres bergers mener les bêtes jusqu'à l'estive. Ils traversent les alpages en courant, les herbes hautes fouettant leurs jambes nues, les aboiements des chiens derrière eux. Ils sillonnent les plateaux brûlés par l'été incandescent, dépassent les pâtures piquetées des taches blanches et brunes des troupeaux, écorchent leurs genoux, s'échappent jusqu'aux hauteurs où les arbres se font rares. Ils s'enivrent du bleu céruléen s'étendant au-dessus d'eux à perte de vue. Ils se baignent dans les eaux cristallines du clair, cette rivière jaillit des entrailles de la montagne dont elle charrie les secrets. Ils se moquent des esprits anciens et lancent des défis à la Kulshedra, la créature redoutée par les villageois. Chaque semaine, ils poussent leurs explorations des hauts monts un peu plus loin, grimpent les falaises à mains nues, s'aventurent dans les grottes humides, murmurent à l'oreille de l'autre des histoires qu'ils inventent et oublient aussitôt. En hiver, ils défient leurs parents et leurs interdictions de sortie. Ils cheminent jusqu'aux hauteurs austères, irréelles de pureté, bondissent dans la poudreuse, contemplent les crêtes opalescentes et les pics de nacre scintillant dans le soleil de décembre. En cette saison, les ombres mouvantes tombent subitement sur toute chose lorsque les nuages font du ciel leur royaume, et ils ne se lassent pas de les contempler. Leur lien les rend plus forts que tout. L'adversité, les adultes, les traditions. Ils sont la folie, l'élan et la joie. Ils sont la vie. « Tu as bientôt 13 ans. Tu n'es plus une enfant !» la sérine sa mère depuis quelque temps. Et Laura hausse les épaules et s'enfuit. Elle apprécie les légendes que sa mère lui raconte depuis toute petite, mais l'univers de Loulet ne l'intéresse pas. Celui de la couture, de la cuisine et de la maison. Celui des femmes, recluses dans les fermes, repliées sur leurs croyances obscures. Loulet est la digne incarnation d'un certain syncrétisme religieux propre aux Albanais. Anciens païens convertis au fil des siècles au christianisme, puis à l'islam, avant que débarquent les Bektachi, ces sunnites mystiques œcuméniques ouvrant les portes de leur mosquée à tous, chrétiens, juifs, athées, agnostiques et même aux femmes. Elles prient un dieu indistinct, apportent des offrandes chaque dimanche aux créatures de la montagne et prêtent une oreille attentive aux prédictions d'Eugenia, son ancienne amie désormais bannie du village. Sa foi dans les superstitions les plus diverses pourrait agacer son époux, Ilir, si lui-même n'était pas entièrement dévoué à un culte d'un genre différent, celui du français, qu'il a appris dans une autre vie, celle où, quelques années durant, il a renoncé à son destin de berger pour s'aventurer dans la capitale. Son retour sur les hauteurs n'a pas égratigné son amour pour cette langue qui coule comme du miel dans ses oreilles. Il l'a enseignée à Loulet, puis à Elora, afin d'adoucir leur quotidien. La passion des mots ne suffit guère à rapprocher la mère et la fille. Au livre, Elora préfère la course, les roches et le vent. Le froid à la chaleur de l'âtre, le vertige des falaises au réconfort du foyer. Dévaler les champs avec son ami. Nico, fils du dessinateur Homer et cousin d'Agone, rêve de se joindre à eux, mais il est incapable de les suivre. Ils sont trop rapides, trop fous. Ils ne témoignent d'aucune patience à l'égard de ce garçon qu'ils jugent lent. Seul Dourim, le grand frère d'Agone, les accompagne dans leur pérégrination. Dourim, ou la puissance, l'ardeur, l'ombre. À presque 20 ans, il est fort, il les impressionne, il n'a peur de rien. Avec lui, ils se sentent en sécurité, protégés. Dourim emprunte toujours les chemins les plus escarpés, n'écoute pas les avertissements du ciel lorsque l'orage point escalade les falaises glissantes. Dourim est le risque, sauf pour ceux qu'il a juré de prendre sous son aile. Tous les trois, ils sont plus invincibles encore. Elora la flamme, l'agile Agone et Dourim le ténébreux. Mais Dourim aspire à plus. Il veut devenir quelqu'un. Depuis plusieurs semaines, il s'enferme dans un silence bilieux lorsque les journées avec les bêtes s'achèvent. L'odeur puissante des brebis qui collent aux vêtements, l'épuisement du corps, il n'en peut plus. Tahir, son père, reconnaît l'impatience nerveuse avec laquelle il frappe le sol des pieds, tourne dans la pièce à vivre comme un fauve en cage, insiste pour sortir faire un tour.
« Il a bientôt 20 ans. Il veut quitter le village. »
souffle-t-il un soir à son épouse. « Alors, laissons-le partir, » répond fils Niquet. Tahir allume une cigarette, mûrit un instant ses paroles. Elle a toujours été plus clairvoyante que lui, plus intransigeante aussi.
« Il nous restera au moins Agone. Lui ne quittera jamais la ferme. »
Certaines nuits, Dourim convainc son petit frère de sortir avec lui pour ses jeux de nuit. Elora se débrouille pour les rejoindre. Elle ne raterait pour rien au monde leurs aventures nocturnes. Depuis le début du printemps, la chance est avec elle. Loulet et Ilir travaillent si dur. Une partie du toit de l'étable s'est effondrée. Le potager a été envahi par le mildiou. Qu'ils s'endorment comme des masses aussitôt couchées. Après s'être assurés que leur respiration sèche est celle du sommeil profond, leur fille se glisse hors du lit, enfile ses chaussures et retrouve les frères sous le chêne coiffant la grange.
« Prête pour les jeux de nuit ?»
Dourim sourit jusqu'aux oreilles. Elora s'apprête à lâcher un « oui » exalté, mais se ravise devant la mine renfrognée de son ami Agone. Escalader les hauts monts au clair de lune, suivre la piste du loup que l'on soupçonne de rôder autour des troupeaux, visiter les grottes où nichent les ours bruns en hiver, au début, Agone prenait plaisir à suivre son frère. Il relevait chacun de ses défis, épaté par sa hardiesse. Mais depuis quelque temps, les incartades de Dourim sont de plus en plus dangereuses. Dérober une bouteille de raki chez Homer, franchir le passage des morts dans la nuit noire, tirer au fusil dans la combe des Noireaux, ce ravin dissimulé derrière le plateau où, dit-on, vit une créature qui dévore ceux qui la dérangent pendant la nuit de la Saint-Georges. Son aîné aime tenter le diable. Cherche-t-il à se faire tuer ? Dourim sourit de plus belle pour provoquer son frère. Elora frémit devant les ridules retroussant ses lèvres et la lueur mauvaise cerclant ses pupilles. Elle ignore s'il s'agit d'un frisson d'excitation ou de peur.
« J'ai découvert où vit la Striga !» annonce-t-il, le torse gonflé de fierté.
« On y va ?»«
Je pensais qu'elle avait été chassée. » s'étonne Agone.
En effet, mais elle n'est pas allée très loin. Cette sorcière s'est cachée dans l'un des anciens refuges des transhumances.
Jusqu'à la naissance d'Elora, les villageois se tournaient vers Eugenia lorsqu'ils avaient des décisions à prendre ou un mystère à élucider. Elle livrait ses prédictions, concoctait des philtres, conseillait les femmes sur l'art de satisfaire leurs époux, assistait aux accouchements. Aucun des drames, petits et grands, se déroulant dans le secret des intérieurs, ne lui échappait. Tous la consultaient en douce.